Bonsoir à tous et bienvenue autour de votre grande table. L'Europe avec Yann Kershaw. Impossible de savoir ce que nous réservent les prochaines décennies. La seule certitude est l'incertitude, écrit-il. Après l'enfer, l'âge global, l'historien publie aujourd'hui le deuxième volet de son siècle européen au seuil. Et c'est passionnant, une histoire du temps présent à retrouver après le journal de Midi et demi de Thomas Cluzel. Mais d'abord, spécialiste de Corneille, la metteur en scène Brigitte Jacques-Vachemann s'attaque aujourd'hui à Racine et à la plus mythique de ses tragédies, Phèdre. C'est à voir au Théâtre des Abbesses à Paris jusqu'au 25 janvier. Puis la pièce partira en tournée à Tulle début février, Beauvais, Toulouse et Tarbes en mars. Brigitte Jacques-Vachemann est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts, La Grande Table à partir de franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Je tremble. Je frissonne. J'aime.
Qui ?
Tu connais ce fils de l'Amazone ? Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé ?
Hippolyte ! Grand Dieu !
C'est toi qui l'as nommé.
Voilà, le nom est lâché. Phèdre, c'est la femme de Thésée et elle aime Hippolyte qui est le fils de Thésée d'une Amazone Antiope. Pensant son mari mort, elle avoue cet amour incestueux, elle lui avoue. Thésée de retour à Trézène, se ne pouvant se rétracter, elle va prétendre que c'est lui, Hippolyte, qui s'est déclaré, provoquant la colère de son mari. Bonjour Brigitte Jacques-Vachemann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. C'est un désir caché, un désir refoulé pendant tant d'années qui soudain va se débrider et qui va entraîner Phèdre dans une course folle jusqu'à la chute. Ce n'est pas un amour heureux, c'est une passion douloureuse hein, qui fend les corps en deux dans cette histoire.
Oui, c'est vécu comme une sorte de maladie. Ça arrive, on ne sait comment, et ça transforme complètement l'être qui en est victime d'une certaine manière. C'est vrai pour Phèdre, mais c'est vrai aussi pour Hippolyte. C'est une sorte de dérangement absolu. Je me cherche et je ne me trouve plus, dit Hippolyte. Et elle a lutté jusqu'au moment où elle est absolument embrasée. Quand elle dit ce n'est plus une ardeur, tout simplement, c'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Il y a comme une sorte de une violence inouïe du désir. Et en même temps, une jouissance, et en même temps qu'une honte. Enfin, c'est ça qui est absolument fascinant. Je pense que on n'a jamais été aussi loin, me semble-t-il, enfin, dans la description de physique, si je puis dire, des effets du désir.
Et ça, c'est Racine qui l'a pensé comme ça, cet amour maladie. Pourquoi ? C'était pour vous un grand amoureux, au contraire, qui voyait un sentiment extrêmement fort, noble, dans toutes ses capacités à la fois à éveiller les sens, à provoquer le trouble et à ravager quand il n'est pas partagé, ou au contraire, c'était un homme qui se méfiait de l'amour.
Alors, vous savez, on ne sait pas, parce qu'au XVIIe siècle, ils racontaient pas trop leur vie. On sait qu'il était l'amant de grandes actrices, et en particulier de la Champmeslée, qui a été la créatrice du rôle, et qui était probablement une star à l'époque. Et il avait en face ou à côté de lui des femmes et des actrices magnifiques et probablement de grandes hystériques, je ne sais pas, enfin des grandes... Il a dû s'approcher de ça. Il se trouve que c'est quand même la dernière pièce qu'il fait au cours d'une série de pièces qu'il a écrites, pièces profanes. La même année, il écrit donc Phèdre, qui est joué, qui a beaucoup de succès, et il arrête. Il se marie, il a des enfants, il devient historiographe du roi, et c'est terminé. Et à la fin de sa vie, revient un peu dans le bercail des jansénistes. Mais Phèdre est une sorte de point d'aboutissement de tout son art, qui est absolument extraordinaire. Sur la violence des femmes, la folie érotique des femmes, on a rarement été aussi loin.
Oui, parce qu'il y a cette fracture des corps et cette fracture de la raison, hein. Avec Phèdre, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, consumée par son désir, puis rongée par la jalousie. Quand elle apprend qu'Hippolyte aime Aricie, Phèdre va basculer littéralement dans la folie. Et ça, vous le montrez sur scène, vous, la metteur en scène Brigitte Jacques-Vachemann. Elle est interprétée ici, Phèdre, par Raphaël Bouchard, et on la voit vraiment secouée de spasmes, tous ses nerfs sont tendus. On sent qu'elle est en souffrance. Hein. Elle est malade de cet amour.
Oui, oui. Elle court, la maladie d'amour. C'est une chanson très, très célèbre dans les années 80, je pense. Oui, oui, bien sûr. Elle en est malade et en même temps, elle est révélée aussi par cette passion. Et la panique qu'elle éprouve lorsque son mari, dont elle pensait qu'il était mort, revient, donc Thésée, montre aussi quelque part l'interdiction faite aux femmes de vivre ces amours, parce que au fond Thésée est montré dès le début de la pièce comme un prédateur, un héros magnifique et en même temps un prédateur. Lui, il a le droit, au fond, d'aimer, d'abandonner les femmes. Enfin, son fils déteste ça, est devenu chaste, a décidé d'être chaste à cause de cela. Enfin, ce qui est très, très intéressant, c'est que quand il est accusé, quand Phèdre accuse, disons plutôt Œnone, pour Phèdre accuse Hippolyte, Thésée, au fond, par rancune contre sa chasteté, d'une certaine manière, va le condamner à mort. C'est absolument inouï. Mais j'ai essayé de montrer comme ça les ravages, en effet, de l'amour, enfin, en tous les cas, de ce désir fou qui vient d'un coup, d'un seul, et qui défait complètement les êtres, et en même temps, je ne voulais pas non plus qu'elle apparaisse seulement comme une victime, Phèdre. Il y a quelque chose aussi qui est une sorte de... Elle n'y arrive pas tout à fait, mais à un moment donné, une revendication. J'ai dit ce que jamais on ne devait entendre. J'ai osé, la veuve de Thésée, ose aimer Hippolyte. Il y a quelque chose comme ça.
Oui, une revendication de vivre, voire de mourir aussi pour ses passions. Et on sent qu'elle l'occupe corps et âme, cet amour-là. Elle va se jeter de manière presque obscène sur scène, sur ce pauvre Hippolyte tétanisé. C'est un comportement qu'on pourrait trouver inadapté pour une femme. Alors moins aujourd'hui qu'hier, on imagine que ça devait être assez sulfureux, une Phèdre comme ça sur une scène. Ce serait un homme, on jugerait cet élan tout à fait autrement, et c'est le cas d'ailleurs de Thésée, qui, quand il rentre de voyage, réclame tout de suite ses droits auprès de sa femme. Hein. Hier, on aurait pu trouver ça normal. Aujourd'hui, cet homme, on le regarderait différemment, finalement, hein, ce Thésée qui arrive. Oui. Cette inversion des regards, à la fois sur la figure féminine du désir et sur cette figure masculine du désir, elle est intéressante entre le moment où ce texte Phèdre a été écrit par Racine et aujourd'hui. Hein. Nos regards de spectateurs ont aussi évolué sur cette maladie d'amour genrée.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Ça touche en effet à quelque chose. À un moment donné, c'est vrai qu'aussi, d'une certaine manière, c'est un amour de prédation, on dira ça. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je ne sais pas. Je dirais plutôt une sorte de passion qui est dévorante et qui veut dévorer l'autre, qui veut l'avoir absolument, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Là. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était la folie, enfin la dimension illimitée, tout d'un coup, qui apparaît du désir et l'interdiction qui est faite d'une certaine manière à Phèdre, et qui l'amène à J'avais envie de la montrer un peu comme un personnage bergmanien aussi, qui s'en veut et qui, enfin voilà, quoi, c'est très douloureux et très physique. C'est-à-dire, c'est ça qui est, que je voulais montrer. C'est moins psychologique que tout d'un coup, les faits réellement physiques au point qu'on la voit qui perd d'une certaine manière, enfin qui trouve une humanité et en même temps une animalité incroyable, quoi.
Phèdre, alors attention, grand rôle pour grande actrice, ça a été notamment l'un des plus beaux offerts à Dominique Blanc par Patrice Chéreau. Elle raconte.
Qui est Phèdre? Je pense que c'est une gigantesque amoureuse majuscule, et c'est comme ça qu'elle est intéressante à défendre. Elle est issue à la fois de l'obscurité et de la lumière. Phèdre, ça veut dire la brillante. Ça vient du grec, je ne sais plus, Phèdros. Enfin, c'est la brillante, la définition. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on va voir arriver sur scène dans une lumière crépusculaire et qui finira de la même façon et qui finira par mourir sur scène. Moi, elle m'a très certainement appris à aimer. Ça, c'est sûr.
C'est-à-dire qu'avant Phèdre, vous n'aimiez pas pareil qu'après Phèdre?
Oui, je pense qu'elle a une soif d'absolu dans lequel moi, je me suis reconnue tout entière, mais développée encore plus. Alors ça, je ne sais pas si ça aide pour vivre, mais c'est pas commode. Mais en tout cas, oui, il y a une espèce d'élargissement comme ça qui s'est produit, comme un espèce d'état amoureux absolu qui... c'est un personnage qui vous grandit de toute façon.
Ces mots de Dominique Blanc sur Phèdre, Brigitte Jacques Wagemann, sur la manière dont elle peut aussi apprendre à aimer, à ouvrir, hein, je pense, son corps, son cœur, tout.
Mais tout à fait, d'ailleurs, je me souvenais que la première fois que je l'ai lu quand j'étais toute jeune... C'était un effet inoubliable. Et quand je dis aux gens j'ai monté Phèdre, tout le monde dit mais j'adore cette pièce. Mmh. Il y a une sorte de rencontre et tout d'un coup un effet d'élargissement de la vie. C'est là qu'on découvre ce que c'est que l'amour. Ou en tous les cas le désir, parce que c'est peut-être, il y a une petite différence.
Il y a eu une lumière dans vos yeux quand Dominique Blanc a parlé du côté lumineux, justement, de la personnalité de Phèdre. Ce sont les derniers mots de la pièce que vous avez retenus, en tout cas. Et la mort, à mes yeux, dérobant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Elle a ses plaques d'or aussi, qu'on retrouve sur le corps de votre comédienne, Raphaël Bouchard. Pourquoi? C'était un clin d'œil pour vous aussi à Hélios, le soleil dont elle est l'une des descendantes. C'est aussi la marque funeste, peut-être, de la tragédie qu'elle porte sur elle.
Oui, oui, tout à fait. C'est un corps magnifié que je voulais montrer aux spectateurs à travers ce que fait Raphaël. Qui a juste une robe très fluide autour d'elle où on voit à tout instant son corps jusqu'au moment même où elle dénude sa poitrine devant Hippolyte, qui voit pour la première fois ce que c'est qu'une femme dans un désir insupportable presque à regarder pour lui.
Phèdre, dans l'une de ses dernières longues répliques, dit « Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste. La détestable Œnone a conduit tout le reste. Elle est Œnone, la servante, trop dévouée, si dévouée ou trop dévouée, qui invente 1000 stratagèmes pour tenter de sauver sa reine. » Comment voyez-vous, vous, ce personnage d'Œnone, comme un accélérateur de tragédie dans ces multiples tentatives qu'elle met en œuvre pour tenter de sauver Phèdre?
Oui, c'est un personnage très énigmatique. C'était pour moi le plus énigmatique quand j'ai commencé à travailler sur la pièce. En même temps, elle forme avec Phèdre un couple totalement fusionnel. C'est ça qui m'a frappé, le plus fusionnel. Et elle aime Phèdre Absolument. Elle a quitté ses enfants, elle a quitté, dit-elle, sa patrie, son mari. Enfin, elle s'est donnée entièrement à Phèdre. Donc c'est très étonnant. Et en même temps, elle, ce qu'elle veut, c'est que Phèdre vive à tout prix. Absolument. En fait, c'est pas une héroïne. Une héroïne, c'est quelqu'un qui affronte la mort. Ce que voudrait Phèdre, faudrait mourir. Et elle en empêche d'une certaine manière jusqu'au bout. Oui, c'est ça. C'est un couple.
Sophie Doll, la comédienne qui incarne Eunone, elle est bouleversante de tragique, justement, dans cette pièce. Elle est aussi romancière. Elle a signé déjà 3 livres où elle raconte aussi les tragédies qui l'ont traversée, elle, comme femme, dans la vie. Sophie Doll, qui vient de recevoir pour son dernier roman le prix de littérature de l'Union européenne, elle porte cette douleur en elle, hein, et on le ressent. Pourquoi êtes-vous allée vers elle? C'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez déjà travaillé?
Tout à fait, oui, j'ai fait plusieurs spectacles avec elle. J'ai en effet accompagné dans toutes ces tragédies qu'elle a. Elle a perdu sa fille, sa mère quand elle était petite. Jeune, quand elle avait 20 ans, a été assassinée. Enfin, c'est hallucinant, quoi, en effet. Donc, la tragédie, elle sait ce que c'est, véritablement, oui. Et en même temps, je trouvais très intéressant le couple qu'elle pouvait faire avec Raphaël, qui est une femme complètement épanouie, magnifique, comme ça, et elle, qui est un petit bout de femme, comme ça, mais d'une intelligence et d'une... avec une voix merveilleuse, enfin, je trouve formidable ces deux actrices ensemble.
Oui, elles ont deux corps assez fragiles, assez voilà, graciles, et toutes les deux une force de caractère qui déplacerait des montagnes.
Ouais, ouais.
C'est ça qui est impressionnant.
Incroyable.
On n'a pas beaucoup parlé des garçons, on va essayer de revenir au personnage masculin
volontiers,
par la suite.
Oui.
Avec nous jusqu'à 12h30, Brigitte Jacques-Vachemann, à l'occasion de son Phèdre qu'elle met en scène au Théâtre des Abbesses avec le Théâtre de la Ville à Paris jusqu'au 25 janvier, avant une tournée dans toute la France.
Oh, my love, for the first time in my life, my eyes are wide open. Oh, my love, for the first time in my life, my eyes can see. Trees, everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my
My love Birds on a Wire. C'est une reprise de John Lennon avec Yoko Ono et le duo Rosemary Stanley de Moriarty et Dom Lanena qui s'associent donc pour reprendre dans cet album complet de reprises quelques morceaux coup de cœur pour eux. C'est un nouvel album dans les bacs le mois prochain. Ils seront en tournée aussi en France, à Annecy, à Compiègne, à Cognac, à Bourges, à Dunkerque et à Strasbourg en avril prochain.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
On n'a pas parlé de la langue de Racine encore ensemble, Brigitte Jacques Vajman, et pourtant elle est très particulière, cette pièce en alexandrin. Dur exercice pour les acteurs, les comédiens, de réussir à se la mettre en bouche, de travailler le souffle, l'articulation avec ce phrasé si particulier. On va écouter un autre extrait de votre pièce, de votre Phèdre, mise en scène actuellement aux Abbesses. Cette fois, c'est un échange entre Thésée et Hippolyte, entre le père et le fils.
Vous parlez toujours d'inceste et d'adultère. Je me tais. Cependant, Phèdre sort d'une mère. Phèdre est d'un sang, Seigneur. Vous le savez trop bien, de toutes ces horreurs plus remplies que le mien.
Ah, ta rage à mes yeux perd toute retenue. Pour la dernière fois, ôte-toi de ma vue. Sors, traître. N'attends pas qu'un père furieux te fasse avec opprobre arraché de ses yeux.
Alors, on ne parle pas exactement comme ça dans la vie, hein. Ce phrasé si particulier, tout en parlant en français, hein, parce que c'est notre langue qui se déploie là. Quelle particularité dans cette langue de Racine pour vous ?
C'est extraordinaire l'alexandrin quand même, parce que c'est vraiment en effet notre langue. Et en même temps, c'est une sorte de langue étrangère. Enfin, c'est ça qui est très beau et qui révèle la langue. Dans Racine, Racine utilise beaucoup les inversions. Donc, il faut à tout instant, naviguer à l'intérieur de cette langue pour pouvoir la faire sienne. Et c'est difficile pour les acteurs pendant les répétitions. Enfin, pas à la représentation. Ils sont heureux de pouvoir le dire, et ils le disent avec une facilité, si je puis dire, absolument formidable. De temps à autre, ce qui est beau aussi dans les alexandrins, c'est qu'il y a des petits moments qui sont de la prose rimée, tout simplement, et puis d'autres moments où les inversions sont assez complexes, et il faut donc travailler pour faire entendre aux spectateurs ce dont il s'agit. Mais j'ai monté en effet plusieurs pièces de Corneille, et à un moment donné Raphaël Bouchard avait envie de jouer Phèdre, et moi j'avais envie à la fois de travailler avec elle. Depuis quelques années, nous avions cessé de travailler ensemble, mais en même temps je ne voulais pas abandonner alexandrin. Je me suis habituée depuis plusieurs années à travailler avec cette langue qui est incroyablement jubilante, et qui, selon en effet qu'on la respire, qu'on l'accentue, ouvre chaque fois des chemins nouveaux. On n'en a jamais fini, d'une certaine manière, voilà. Et donc on travaille beaucoup sur la respiration du vers, plus que au fond presque sur la diction.
Est-ce que c'est la langue des passions ou est-ce que c'est la langue de la raison ? Je vous propose d'écouter les mots juste d'Antoine Vitesse parlant de l'écriture de Racine.
Racine, ça n'a rien à voir avec un mode d'écriture débridé, un mode d'écriture baveux, sentimental. Enfin, c'est au contraire une écriture absolument concerté, entièrement pensé, entièrement raisonné. Il y a quelque chose là qui ressortit à la froideur, cette fameuse froideur, qui en réalité, généralement, pour moi, est ce qu'il y a de plus chaud. C'est là, généralement, que je trouve le plus de chaleur, c'est dans cette froideur, dans ce sorbet au feu.
Ce sorbet au feu, ce qui était votre professeur. Il y a tout ce paradoxe dans l'écriture, pour vous, de Racine ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire à la fois le feu qui embrase les corps, comme ils le disent à tout instant. Je parle des personnages, et puis en même temps cette tenue du verre. Donc ce rapport est, c'est une sorte de combat merveilleux pour essayer de dire quelque chose qui va au-delà de la parole. C'est tout à fait fascinant. Et Vitesse parlait aussi à propos de Fèdre, disait c'est incroyable. La question, ça, on sort de l'Alexandrin, mais il parlait de la souillure du sexe, du sentiment que le sexe était une chose vraiment interdite et vraiment terrible. Et il se posait cette question que je me suis posée constamment dans la mise en scène. Donc en effet, des Alexandrins merveilleux de beauté, une langue mais incroyable, pour dire quelque chose qui est plutôt d'une violence insupportable.
Vous avez mis en scène des contemporains aussi, Brigitte Jacques-Vachemann, mais on a l'impression que vous êtes particulièrement heureuse ou bien en compagnie de ces auteurs, de Racine aujourd'hui, de Corneille hier et sûrement encore demain. Corneille que vous avez mis en scène de la mort de Pompée à Horace au Cid ou encore Nicomède, que vous avez au moins mis en scène plus d'une dizaine de fois. Quelle compagnie vous trouvez auprès d'eux?
Je pense qu'il y a une intelligence et un art de l'émotion, c'est pour moi ce théâtre et le théâtre de traiter des passions. On découvre ce que c'est que la question du pouvoir, la question de l'amour, du désir, les deux grandes questions qui sont comme ça cette passion-là, la passion du pouvoir et la passion amoureuse aussi. C'est sans doute pour cela que je travaille beaucoup avec eux, mais
et de la croyance, parce que dans un Polyeucte de Corneille, on retrouve aussi cette idée de croyance aveugle, presque d'embrigadement, de fanatisme.
Ouais, ah, oui. Ah oui, oui.
Qui se retrouve pour la religion comme dans l'amour, en fait. Hein.
Non, mais tout à fait. C'est le dernier Corneille que j'ai monté, c'est Polyeucte. Je pense que d'ailleurs je vais m'arrêter là, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux. Et donc, rentrer dans le domaine racinien m'enchante.
Jamais mieux, mais différemment. Merci beaucoup à vous d'avoir été autour de cette grande table, Brigitte Jacques-Vachemann. Votre Phèdre se joue donc en ce moment au Théâtre des Abbesses avec le Théâtre de la Ville à Paris jusqu'au 25 janvier, puis en tournée dans toute la France. Je vous disais Tulle début février, Beauvais, Toulouse et Tarbes en mars.
Et Lyon.
Plein d'autres dates encore, Lyon en mars aussi. Voilà, et ben c'est reparti pour un tour. Merci mille fois à vous.
Merci à vous.